Il attendit une heure et demie, suffisamment longtemps. Léon commençait à cuisiner. Au moins une vingtaine de gothiques se la jouaient dans la salle principale, comme un troupeau de bébés dinosaures, leurs crêtes couvertes de laque s'agitant doucement. La majorité d'entre eux approchaient de l'idéal gothique, grand, mince, musclé, mais émacié et affligé d'une certaine nervosité, de jeunes athlètes au premier stade de l'aphtisie. La pâleur de cadavre était obligatoire et les chevelures, forcément noires. Bobby savait qu'il valait mieux éviter ceux qui ne parvenaient pas à faire correspondre leur corps au canon de cette sous-culture. Un petit gothique était synonyme d'ennui, un gothique obèse, un assassin en puissance. Il les regardait désormais faire jouer leurs muscles rutilants chez Léon comme une créature composite. Mixomycète à la surface composée d'un patchwork de cuir noir et de piques en inox. Ils se ressemblaient presque tous, les traits remodelés pour correspondre à d'antiques archétypes trouvés sur des banques de kino. Il choisit un dîne particulièrement soigné, dont les cheveux oscillaient comme la gorge d'un lézard nocturne lors de sa parade nuptiale. « Salut !» s'annonça Bobby sans bien savoir s'il l'avait déjà croisé. « Salut, mec !» répondit le dîne avec langueur, sa joue gauche déformée par un morceau de gomme résine qu'il mâchonnait. Puis, en aparté à sa nana. « Lui, c'est le compte, chérie. Rapport au compte à zéro. » Une longue main pâle, au revers marqué par une croûte récente, pelota le cul de la fille à travers sa jupe en cuir. « Compte, voici ma meuf. » La gothique n'examina pas Bobby comme s'il s'agissait d'un humain, mais plutôt d'une publicité pour un produit dont elle avait entendu parler mais qu'elle n'avait aucune intention d'acheter. Bobby regarda la foule. Quelques visages sans expression, mais aucun qu'il connaissait. Pas de deux par jour. « Dis donc, souffla-t-il, toi qui es au courant de tout, je cherche un très bon pote, un ami avec qui je trafique. » Et à ces mots, le gothique inclina sa crête avec sagesse. « Du nom de deux par jour. » Il se tut. Le gothique ne réagit pas et continua à mâcher sa résine. La fille, agitée, paraissait s'ennuyer. « Un fourgue !» ajouta Bobby en haussant les sourcils. « Il est noir. »« Deux par jour ?» dit le gothique. « Mais oui, deux par jour, pas vrai, chérie ?» Sa copine tourna la tête pour regarder ailleurs. « Tu le connais ?»« Bien sûr. Il est ici ce soir ?»« Non, » dit le gothique avec un sourire dénué de sens. Bobby ouvrit la bouche, la ferma et s'efforça d'acquiescer. « Merci, mon pote. » « De rien, mec !» conclut le gothique. Une heure s'écoula, et toujours pareil. Trop de blanc, de gothique pâle comme la mort. Les yeux vitreux de leur nana, les talons de leurs bottes comme des aiguilles d'ébène. Il se retint d'entrer dans la salle de Simsteam où Léon passait une étrange cassette de cul dans la jungle, où l'on sautait d'un animal à un autre. Avec pas mal d'obèses démentes dans les arbres, ce qui désorientait un peu Bobby. Il avait tellement faim qu'il se sentait légèrement défoncé ou peut-être qu'il s'agissait du contre-coup de ce qui lui était arrivé plus tôt. Mais il commençait à avoir du mal à se concentrer et ses pensées dérivaient dans d'étranges directions. Par exemple, il se demandait qui avait bien pu grimper sur ces troncs remplis de serpents pour brancher des interfaces SimSteam sur ces espèces de rats. Cela plaisait toutefois beaucoup aux gothiques. Il battait des bras, sautait sur place et semblait, pour la plupart, s'identifier aux créatures dans les arbres. La nouvelle cassette à succès de Léon, se dit Bobby. Juste à sa gauche, mais très loin de la Steam, il y avait deux filles de la cité dont les parures baroques contrastaient fortement avec le monochrome des gothiques. De longues redingotes noires, ouvertes sur des vestes moulantes rouges en brocart. Les queues d'immenses chemises blanches qui dépassaient jusque sous leurs genoux. Leurs traits sombres étaient cachés sous les rebords de chapeaux mous décorés de morceaux d'or anciens, épingles de cravate, amulettes, dents, montres mécaniques. Bobby les observait à la dérobée. On devinait à leurs vêtements qu'elles avaient de l'argent, mais aussi que celui qui s'approcherait de trop près risquait de gros ennuis. Une fois, deux par jour avaient débarqué de la cité dans sa tenue bleu métallique en velours, avec les boucles en diamant aux genoux, comme s'ils n'avaient pas eu le temps de se changer. Mais Bobby avait fait comme si la fourgue portait ses habits de cuir habituels, car il lui semblait qu'il fallait, dans les affaires, faire preuve d'ouverture d'esprit. Il s'imagina en train d'aller les voir tranquille pour leur demander « Dites donc, les filles, vous connaissez sans doute mon ami, deux par jour. » mais elles étaient plus âgées que lui, le dépassaient et bougeaient avec de grands airs qui l'intimidaient. Elles se moqueraient probablement de lui, et il préférait éviter. Il avait une faim de loup. Il toucha sa puce de crédit à travers la toile de son jean. Il pourrait traverser la rue et s'acheter un sandwich. Puis il se rappela ce qu'il faisait là, et utiliser sa puce lui parut brusquement une mauvaise idée. S'il s'était fait repérer après sa tentative d'intrusion, il devait désormais avoir le numéro de sa puce. S'en servir le signalerait à ceux qu'il traquait dans le cyberespace. Il apparaîtrait sur le réseau de Bariton comme un feu de détresse dans un stade de football éteint. Il avait de l'argent liquide, mais on ne pouvait pas se payer de nourriture avec. Il n'était pas vraiment interdit d'en posséder, mais personne ne s'en servait jamais pour des transactions légales. Il lui faudrait trouver un gothique avec une puce, lui acheter un nouveau yen de crédit, sans doute avec une grosse perte, puis l'envoyer chercher la nourriture. Et comment pourrait-il récupérer la monnaie ? « Tu te fais peut-être un film », se dit-il. Il n'était pas certain qu'on tentait de le retrouver, et la base qu'il avait essayé de pénétrer était réglo, ou était censée l'être, en tout cas. Voilà pourquoi deux par jour l'avait rassuré qu'il n'avait pas à craindre la moindre glace noire. Pourquoi protéger un endroit qui diffusait des kinos érotiques avec des programmes de rétroaction mortels ? Il comptait simplement piquer quelques heures de kinos numérisés, des nouveautés qui n'étaient pas encore sur le marché noir. Pas vraiment le genre de plan pour lequel on risquait habituellement de se faire buter. Mais quelqu'un avait pourtant essayé. Et il s'était passé autre chose, quelque chose d'inédit. Il remonta péniblement l'escalier pour sortir de chez Léon. Il savait qu'il en ignorait beaucoup sur la matrice, mais il n'avait jamais entendu parler d'un truc aussi dingue. Il y avait bien des histoires de fantômes et des bisous qui juraient avoir vu des choses dans le cyberespace, mais il les avait toujours pris pour des Wilson qui se branchaient défoncés. Comme partout ailleurs, on pouvait halluciner dans la matrice. C'était peut-être ça, songea-t-il. La voix qu'il avait entendue était peut-être un délire aux portes de la mort, avec le tracé plat du charabia rassurant créé par son cerveau. Et il s'était passé quelque chose à la source. Une panne sur leur partie du réseau, par exemple. Et la glace avait alors lâché son emprise sur son système nerveux. Peut-être. Mais il n'en savait rien. Il ne connaissait pas le terrain. Son ignorance commençait à lui peser depuis peu, parce qu'elle l'empêchait d'agir comme il le fallait. Il n'y avait jamais vraiment réfléchi auparavant, mais il ne savait pas grand-chose. En fait, jusqu'à ce qu'il se lance dans la matrice, il avait toujours eu l'impression qu'il en savait assez. Exactement comme les gothiques qui restaient là à se défoncer à la poudre ou à se faire taillader par les décontractes et dont un certain pourcentage, après un processus d'attrition, deviendrait, sans que l'on sache bien comment, la prochaine génération de baritoniens qui achèteraient un appart pour y vivre avec leurs enfants et renouveler tout ce bordel. Il était comme un gamin qui aurait grandi au bord de l'océan, habitué à sa présence comme à celle du ciel, mais ignorant tout des courants, des voies de navigation ou des caprices de la météo. Il s'était branché sur des interfaces à l'école, des jouets qui vous embarquaient dans l'immensité de cet espace qui n'en était pas un. L'hallucination d'une complexité incroyable partagée par l'humanité. La matrice, le cyberespace où les grosses unités centrales des entreprises brillaient comme des novas au néon, leur donnaient si denses que toute tentative d'en appréhender plus que les contours risquait d'entraîner une surcharge sensorielle. Mais depuis qu'il avait commencé à plonger, il se rendait compte à quel point il en savait peu sur les rouages, et pas seulement de la matrice. Il s'était alors mis à s'interroger sur tout le reste. Comment fonctionnait Barrytown ? Comment sa mère réussissait à tenir ? Pourquoi les gothiques et les décontractes investissaient autant d'énergie à s'entretuer ? Ou pourquoi deux par jour étaient noirs et vivaient là-bas dans la cité ? Et en quoi c'était différent ? En marchant, il continua de chercher le fourgue, partout des visages blancs. Son estomac s'était mis à faire pas mal de bruit. Il pensa aux côtelettes de blé emballées dans le frigo chez lui, frites avec un peu de soja et accompagnées de gaufrettes de krill. Il repassa devant le kiosque et jeta un coup d'œil à l'horloge Coke. Marsha était forcément rentrée, plongée dans les intrigues labyrinthiques de People of Importance, où elle partageait la vie de la protagoniste féminine via sa prise depuis presque 20 ans. Le fax de l'Asahi Shimbun continuait de se dérouler derrière sa petite vitrine, et il s'en approcha à temps pour voir l'annonce du bombardement du bloc A niveau 3, Kovine Concourse Kurz à Barryton, dans le New Jersey. Puis le titre disparut, remplacé par un article sur l'enterrement du chef des Yakuza de Cleveland, qui s'était tenu dans le respect de la tradition. Tout le monde y portait des parapluies noirs. Il avait vécu toute sa vie au 503 dans le bloc A. Cet immense engin était venu frapper Marsha Newmark et son appartement Hitachi. Et évidemment, il lui était destiné. « Il plaisante pas », s'entendit-il dire.
« Hé, mon pote, le comte, t'es défoncé ou quoi? Où tu vas, là ?»
Les yeux de Dodine le suivirent dans sa fuite paniquée.